Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygiène. Il va falloir en faire son deuil, les cartes SIM sont bel et bien en voie de disparition. Il n'est même plus possible de glisser une carte SIM dans les nouveaux iPhones vendus aux États-Unis, tout passe par une SIM électronique. Et l'industrie veut aller encore plus loin, comme on va le voir dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, il est temps de sortir les violons et le grand orchestre au complet. Avec Anthony, on va parler de musique classique, et plus précisément de ce futur service Apple Music Classical qui devait sortir l'an dernier. Nous sommes le jeudi 2 mars, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Entre eSIM et eSIM, votre cœur balance. Bon, évidemment, dit comme ça, je parle de la même chose. Mais l'eSIM avec un E et l'eSIM avec un I sont deux choses différentes. La première eSIM avec un E, donc, est une puce qui remplace la carte SIM physique. Elle est soudée à la carte mère du smartphone. Apple a commencé à l'intégrer avec les iPhone XS et XR, et les iPhone 14 vendus aux États-Unis font tout simplement l'impasse sur le tiroir de la carte SIM, il n'y a plus qu'une eSIM à l'intérieur. L'eSIM, celle avec un i, s'intègre non pas sur la carte mère, mais directement au sein de la puce. Chez Apple, ce serait un composant supplémentaire dans une puce A d'iPhone, à côté du GPU, du Neural Engine, du processeur d'image, etc. En quelque sorte, l'eSIM est le successeur de l'eSIM, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Ces nouvelles toutes petites eSIM vont pouvoir fleurir dans les différentes puces des constructeurs de smartphones. La GCMA, qui est l'organisation qui chapeaute tous les opérateurs, a donné son feu vert à l'exploitation de l'eSIM qui est présente dans la dernière puce Snapdragon de Qualcomm. Pour l'utilisateur, les atouts de l'eSIM, c'est qu'elle pourra tirer profit éventuellement des capacités de la puce du smartphone, et on peut aussi s'attendre à une optimisation de l'utilisation de la batterie. Un jour peut-être, on n'aura plus besoin de transporter un gros portefeuille plein de cartes et de papiers en tout genre. Ce jour n'est pas arrivé, mais le smartphone a quand même permis de se débarrasser de plusieurs documents, comme la carte bleue, les sous sonnants et trébuchants, ou encore les cartes de fidélité. Et la dématérialisation ne va pas s'arrêter là. La carte d'identité est la prochaine sur la liste, en France par exemple avec l'application France Identité, même si ça va être encore long avant que ce document disparaisse complètement sous sa forme physique. Un autre chantier au long cours préparé cette fois par la Commission européenne, c'est le permis de conduire numérique. Pour l'instant, il s'agit d'une proposition de Bruxelles, mais l'idée est d'arriver à une version dématérialisée du permis pour tous les conducteurs dans l'Union européenne. Une des difficultés sera d'harmoniser les législations des États membres. Plusieurs d'entre eux préparent déjà un permis entièrement numérique, mais la France, par exemple, est en retard sur le sujet. En tout cas, Apple a déjà tout préparé dans l'application Carte qui peut déjà enregistrer un permis numérique dans une partie des États-Unis. Mais il n'est pas sûr que cette solution américaine soit privilégiée en Europe, où on cherchera plutôt une plateforme commune et souveraine. C'est cette année qu'Apple devrait finalement lancer son casque de réalité mixte, même si rien n'est jamais sûr avec cet appareil. Du côté de Meta, c'est carrément la feuille de route de ces prochaines années qui a fuité, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Mark Zuckerberg a pas mal d'ambition. Meta prévoit en effet une première paire de lunettes de réalité augmentée dès 2027. Elle permettrait entre autres de projeter des avatars de haute qualité dans le monde réel. Ces lunettes seraient accompagnées d'une sorte de bracelet ou de montre connectée qui permettrait de se diriger dans l'interface avec les mains. Il serait même question de pouvoir taper sur un clavier virtuel avec ce système. En attendant, Meta va lancer cet automne le Quest 3, un nouveau casque de réalité virtuelle plus puissant que le précédent modèle évidemment, et qui devrait aussi être un peu plus cher. Et il y aurait une version plus abordable dans le courant de l'année prochaine. Par contre, il n'est pas question d'un successeur au Quest Pro, du moins pas pour le moment. Les amateurs de musique classique ne sont pas à la fête avec les plateformes de streaming grand public. Ni Spotify, ni Apple Music ne proposent de fonctions dédiées pour ses utilisateurs, mais cela devrait changer avec le futur Apple Classical qui sortira, on ne sait pas trop quand. Avec Anthony, on va justement revenir sur ce marché très niche qui se développe à l'ombre des grands services. Salut Anthony!
Salut Mickaël, salut à tous.
C'est quoi le problème de la musique classique en streaming et pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'autre choix que de passer par un service dédié actuellement ?
La musique classique et le jazz aussi un peu pose des problèmes que les autres genres musicaux ne posent pas. Notre collègue Jean-Baptiste avait écrit un bon article là-dessus en décembre 2020, donc c'est pas tout neuf. Ouais. Il prenait un exemple qui était assez simple, c'était la troisième suite orchestrale de Bach. C'est un morceau, c'est une œuvre qui contient un morceau qui est extraordinairement populaire, qui a été enregistré des milliers de fois, et donc déjà, quelle interprétation est-ce qu'on choisit?
Oui.
Oui, et puis au fait, c'est quoi son titre? Parce que bon, suite orchestrale numéro 3, sauf que parfois on dit R sur la corde de sol, puis évidemment chaque pays traduit dans sa propre langue. Ouais. Alors les spécialistes, ils savent que dans le catalogue BWV, qui est le catalogue des œuvres de Bach, c'est le numéro 1068. Sauf que si toi t'es pas spécialiste et qu'il faut que t'ailles sur Wikipédia pour chercher ce que tu veux écouter, on est quand même pas sorti de l'auberge.
Ouais.
Et puis c'est une œuvre, ok, sauf qu'elle est composée de 5 mouvements. Et c'est clairement le deuxième mouvement que tout le monde connaît, sauf que personne ne sait que c'est le deuxième mouvement, et puis personne sait que c'est le deuxième mouvement de 7-8.
Ouais.
Et puis c'est qui l'artiste? C'est le chef d'orchestre? C'est le compositeur? C'est l'orchestre? C'est le violoniste particulièrement connu qui a décidé de coller ça dans sa compilation? Et puis qu'est-ce qu'on fait du trio de jazz qui a décidé de la reprendre au piano? À côté de ça, trouver un morceau de Big Flo et Oli, c'est vachement plus simple.
Il y a le problème de l'organisation des catalogues d'une part, mais il y a aussi celui de la rémunération des artistes de l'autre. Et ça aussi, c'est un sacré casse-tête.
Oui, quelques services de streaming rémunèrent les maisons de disques selon le nombre de lectures des morceaux, qui est un peu le modèle que tout le monde a en tête, sauf que ce n'est pas le modèle le plus courant. Le modèle le plus courant, c'est un système assez complexe de pooling. En fait, on prend le montant total de l'ensemble des abonnements, on l'additionne, ça forme un pool qu'on va ensuite diviser selon le nombre et le temps d'écoute, avec des coefficients qui sont assez complexes. Ça dépend des plateformes, ça dépend des accords, ça dépend même parfois des artistes.
Ouais.
Et donc si toi, t'es la seule personne qui écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le même artiste, cet artiste-là, il va pas recevoir les 10 euros de ton abonnement. Parce que c'est pas ton abonnement à toi qui est réparti selon les artistes que toi, tu écoutes. À la fin, il va recevoir 1 millième de centime d'euro. Parce que tes heures d'écoute, c'est une goutte dans l'océan des milliards d'heures d'écoute des autres utilisateurs.
Ouais.
Et puis évidemment, c'est les maisons disques qui sont payées, pas les artistes. Les maisons disques, elles répartissent ensuite les revenus en fonction de leur contrat. Donc quand Apple t'explique qu'elle paye 1 centime par écoute, faut prendre ce chiffre avec un gros grain de sel. Mais à la limite, disons ça, 1 centime par écoute, le problème avec le classique, c'est qu'une œuvre, elle peut durer 2 heures avec 4 morceaux.
Ouais.
Et donc le label qui a pris le risque d'enregistrer un orchestre symphonique avec 100 et quelques musiciens, tu le payes 4 centimes.
Ouais.
Alors que si la même personne aurait enchaîné les albums de pop, par exemple, pendant ces 2 heures-là, Apple aurait peut-être dû débourser 30 ou 40 centimes. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Et c'est pas étonnant du coup que les labels spécialisés enregistrent de moins en moins de musique orchestrale. Les services spécialisés dans la musique classique... dont Presto, dont on parle, ont d'ailleurs choisi d'utiliser un nouveau modèle qui est la rémunération à la seconde d'écoute.
Ouais.
Et où justement on privilégie le temps d'écoute plutôt que le nombre de morceaux.
D'accord. Est-ce que ça te paraît plus équitable?
C'est un modèle qui est plus raisonnable pour la musique classique, où encore une fois, une demi-heure, un album de pop où t'as 12 morceaux, tu vas payer 12 centimes. Pendant le même temps, t'as peut-être écouté que 2 morceaux de musique classique, donc il faut trouver un autre modèle que le paiement au morceau pour ça.
À la fin de l'été 2021, Apple a annoncé l'acquisition de Primephonic, qui est un service de streaming dédié à la musique classique, avec dans l'idée de bâtir une nouvelle application à côté d'Apple Music. Il y avait cette promesse d'un lancement avant la fin de l'année 2022, mais voilà, on n'a toujours rien vu venir.
Oui, alors y a d'abord cette affaire de rémunération. Primephonic payait aussi à la seconde. Et on peut se demander si c'est un modèle qui convient à Apple.
Ouais.
Et puis j'ai absolument aucun doute que la musique classique, ça pose d'énormes problèmes à Siri. Il y a des gens comme moi qui s'entêtent à dire Bach, parce que j'ai pas fait 15 ans d'allemand pour rien quand même. Et puis il y a ceux qui disent Bach. Et ça, c'est déjà un premier problème, parce que Siri, il faut qu'ils comprennent les deux. Et puis va demander à ton HomePod une interprétation précise avec un chef d'orchestre précis, d'une œuvre précise. C'est un petit peu un casse-tête.
Ouais.
Or, le bruit qui monte ces derniers mois dans l'industrie, et il monte suffisamment fort pour que ça vienne jusqu'à mes oreilles, alors que j'en suis quand même loin de cette industrie, c'est que ça coince aussi et surtout sur la qualité des métadonnées. La musique classique, encore une fois, ça rentre pas dans les cases des services de streaming, et si on veut avoir la moindre chance d'y arriver, de la faire rentrer dans les cases, il faut que les métadonnées soient précises, il faut que les morceaux soient décrits très précisément.
Ouais.
Sauf que c'est pas toujours le cas, et les labels jouent pas toujours le jeu. Et de ce que l'on sait, de ce qui se dit en ce moment, Apple est en train de faire le travail à la place de certains labels. Et c'est un travail titanesque qui prend un temps fou. Presto, dont on parlait, il se lance avec 200 000 albums. Oui. Ça peut sembler beaucoup, mais enfin, j'ai pas dû chercher longtemps pour trouver des trous dans le catalogue. Ouais. Et sur les 200 000 albums, il y en a que 70 000 qui sont accompagnés d'un livret. Donc on voit que niveau qualité, c'est quand même pas ça. Ça montre l'ampleur du boulot auquel s'attaquait Apple. Alors heureusement, certains labels jouent le jeu. J'ai encore reçu la semaine dernière un communiqué de presse de la Deutsche Grammophon qui rappelait à quel point elle adore Apple Music, elle adore Apple, et ils ont mis plein de contenu en Dolby Atmos sur Apple Music. C'est bien. Clairement, c'est pas gagné, mais il y a quand même un peu d'espoir.
Est-ce qu'on a la moindre idée de ce à quoi va ressembler Apple Classical ?
Ouais, tu le disais, a priori, ce sera un service distinct d'Apple Music, avec sa propre ouais. application et son propre abonnement. Quand Apple avait acheté Primephonic, Olivier Schusser, qui est le vice-président d'Apple Music, avait clairement dit qu'il coûterait ce service 9,99€ par mois, alors que Primephonic coûtait à l'époque 14,99€ par mois. Ouais. Donc clairement, application dédiée, service dédié, abonnement dédié. Apple Music a déjà une rubrique qui est dédiée à la musique classique. Ce serait quand même ultra étonnant qu'elle disparaisse. Oui. Mais quelque part, on paye moins pour la musique en elle-même que pour tout ce qui va l'accompagner. Ce qu'on attend de cette application, ce qu'on est en droit d'attendre, c'est que elle offre une interface qui est plus adaptée à la musique classique, ce que Primephonic faisait bien, qu'elle permette de naviguer par compositeur comme par interprète, parce que c'est deux manières différentes de voir la musique classique, et il y a des gens qui préfèrent l'une ou qui préfèrent l'autre. Oui. Qu'elle permette de suivre le parcours d'un soliste, par exemple, parce qu'un soliste peut enregistrer avec différents ensembles. La carrière d'un chef d'orchestre, c'est aussi des choses importantes. Oui. Puis surtout qu'elle ait un volet éditorial très très solide, parce que la musique classique, tout le monde peut l'apprécier, mais enfin c'est quand même plus facile à apprécier quand on sait ce qu'on écoute. Oui. Et je vois ça presque plus comme un abonnement à un magazine musical qu'un abonnement à un service de streaming. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est attendu de pied ferme par les gens qui aiment ou qui ont juste un vague intérêt pour la musique classique. Oui.
À ton avis, est-ce que cette offre va permettre à Apple Music de gagner des abonnements, ou est-ce que ça fait partie d'une stratégie plus globale de consolidation des abonnés ?
J'aime bien la musique classique, mais enfin, c'est quand même la niche de la niche. Hein. et quand tu vois des labels spécialisés arrêter d'enregistrer de grands ensembles, voir certains se vendre à des majors et arrêter, quoi, c'est clairement pas le domaine dans lequel Apple va faire son énième milliard. C'est un peu comme le lossless, où il y avait une petite minorité locale qui disait « Oh, on veut de la musique lossless sur Apple Music ouais. ». La vérité, c'est que ça fait pas gagner des abonnés. Spotify, d'ailleurs, qui semble absolument pas pressé de lancer son offre lossless, peut en témoigner. Et Apple, ces dernières années, table plutôt sur des différences qui sont clairement audibles. L'audio spatial, il n'y a pas de doute. Hein. Un morceau d'audio spatial, ça sonne pas comme un morceau stéréo. Et puis sur des fonctions qui sont clairement identifiables. Typiquement, le karaoké. Ça se voit, quoi. C'est assez facile de faire la différence. Et là-dessus, d'ailleurs, hein, il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas assez, mais Apple Music, c'est un super service qui est bien plus engageant, qui est bien plus riche que les services concurrents. C'est pas que de la musique. Oui. Et si elle peut apporter ne serait-ce que le tiers de la moitié de ça au domaine du classique, je suis assez convaincu que ça va faire rentrer quelques abonnés à des services concurrents au bercail.
En attendant qu'Apple se lance, quel service de streaming on peut recommander à nos auditeurs qui sont fans de musique classique ?
Qobuz n'est pas un service de streaming particulièrement spécialisé dans le classique. Oui. Et il est confronté au même problème de qualité des métadonnées. Je ne compte plus le nombre d'albums que je me suis fait rembourser parce qu'ils étaient mal labellés. Mais ils appuient un peu plus sur le vol éditorial. C'est pas trop mal de ce point de vue-là. C'est un service streaming généraliste, mais pas trop, quelque part. Il y a Presto. Presto qui a quand même l'intérêt d'avoir un pied dans le classique et un pied dans le jazz. Ça a toujours été une boutique qui a fait les deux, et donc maintenant un service streaming qui fait les deux. Et il faut aussi mentionner Idagio, qui était le grand concurrent de Primephonic et qui reste super pertinent. Ils ont une offre à 200€ par an, notamment, qui intègre l'accès à une offre de streaming et de concert en vidéo, qui est assez intéressante, donc c'est à la fois de la musique et de la vidéo. La vérité, c'est que c'est un secteur, le classique, qui est super éclaté. La Philharmonie de Paris, par exemple, a sa propre app, Philharmonie Live, qui est presque une chaîne de télé. D'accord. C'est assez surprenant. Le London Symphony Orchestra a sa propre boutique de téléchargement. tout à l'heure, je parlais de la Deutsche Grammophon. Ils ont fini par lancer leur propre service de streaming vidéo. Oui. Qui s'appelle Stage Plus, avec des vidéos 4K, avec des pistes sonores en Dolby Atmos, enfin un truc propre, quoi. Et ça coûte 149€ par an. Donc c'est relativement raisonnable pour des gens qui sont capables de mettre 200 ou 300€ à chaque concert. Ouais. Faut fouiller, clairement, mais si on fouille, il y a un moyen de se faire plaisir.
Eh bien, merci pour ce petit tour d'horizon. On va quand même espérer qu'Apple Classical ne va plus trop tarder maintenant. Salut Anthony.
Salut Mickaël, salut à tous.
Et merci de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.